Donc, je vais vous parler de domomédecine. Je vais introduire auprès de vous ce concept relativement récent qui a été introduit par l'Académie des technologies il y a un tout petit peu plus d'un an. Je vais vous expliquer pourquoi ce concept et comment, quelle conclusion l'Académie des technologies qui a donc travaillé sur ces notions, comment elle l'a définie et comment elle en est arrivée là. Vous avez des questions? Donc, je crois qu'on a combien de temps, monsieur? Une trentaine de minutes, c'est ça? Pardon? D'accord, je pense que c'est ça. Donc, moi-même, je suis membre de l'Académie des technologies, directeur de l'unité INSERM, dont la thématique de recherche concerne les rythmes biologiques et le cancer. Et je vais vous. Cette unité est basée dans l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et en tant que médecin cancérologue, j'applique auprès de mes patients un certain nombre des concepts que je vais développer auprès de vous. Alors pourquoi cette domomédecine? Et je vais parler de mon expérience sur une diapositive, mais considérer qu'elle s'applique à de nombreuses autres expériences d'ordre médical. On a une idée, on trouve des résultats de la recherche, en particulier pour ce qui me concerne, de la recherche sur les horloges biologiques. On veut appliquer ces résultats-là aux patients. Il est donc nécessaire de développer une technologie qui va prendre en compte les concepts scientifiques. Par exemple, nous mettons en évidence que il faut moduler l'administration de chimiothérapie au cours des 24 heures pour réduire la toxicité et augmenter l'efficacité. Évidemment, dans les conditions actuelles des soins, ça n'est pas possible. Il est donc nécessaire que se développe une technologie qui prenne en compte ce concept et qui permette d'administrer la chimiothérapie de façon modulée dans les 24 heures, le plus simplement possible, donc par une technologie dédiée, par exemple un injecteur programmable, qui est ce qui est figuré ici. Que va faire cet injecteur programmable? Eh bien, il va moduler au cours de la journée et de la nuit le débit d'administration de la chimiothérapie. Et il va également permettre de se passer, si je puis dire, des contraintes d'hospitalisation, puisque le patient va pouvoir recevoir une chimiothérapie complexe à domicile, administrée aux heures les plus appropriées. Donc on pourrait penser que tout s'arrête là et qu'il suffit d'avoir le système comme ça, mais non, pas du tout. Car derrière, il y a l'induction d'une organisation logistique dédiée. Cette organisation logistique dédiée, évidemment, elle implique le patient et son médecin, en l'occurrence le médecin cancérologue. Elle implique les personnels de soins. Elle implique la pharmacie. Donc la technologie, l'apparition de cette nouvelle technologie induit une logistique dédiée dont l'objectif est finalement que le patient reçoive une chimiothérapie avec la sécurité maximale à son domicile. Et donc on pourrait dire que tout va bien comme ça, mais pas du tout. Pas du tout, parce que jusqu'au moment où l'éducation du patient ne s'est pas mise en... avant que l'éducation du patient et des personnels de soins n'ait été développée, le système va cas en cas. Et donc, il est nécessaire de développer ce que nous avons appelé une consultation infirmière, où l'infirmière va éduquer le patient au traitement qu'il reçoit et également aux technologies qui vont permettre à ce traitement d'être administré au domicile, et également des personnels de santé qui peuvent intervenir au domicile du patient. Et une fois que ce système-là est en place, ça va à peu près. Et donc les efforts qui sont réalisés actuellement, évidemment, c'est des efforts de télécommunication pour avoir ou de télétransmission pour avoir un meilleur suivi du patient à domicile, pour avoir un meilleur retour d'informations plus rapide et éviter donc les complications. Et en gros, ce que je vous ai décrit, c'est l'expérience de pratiquement tous les médecins qui ont voulu traiter leurs patients à domicile avec un succès, et puis à un moment, ça s'arrête. Et donc, ça s'arrête non pas parce que personne n'est content, tout le monde est content, mais parce que le cadre dans lequel se développe cette expérimentation n'est pas prêt à la recevoir. Et donc, on a réfléchi là-dessus avec l'Académie des technologies. Donc, l'Académie des technologies, c'est un établissement public administratif hein, qui émane de l'Académie des sciences, qui est maintenant une académie autonome, placée sous l'autorité du ministère de la Recherche et de l'Enseignement. Et donc, en 2008, on a présenté un rapport de l'Académie des technologies qui a précisément examiné, après une enquête auprès d'une centaine d'intervenants, de tous ordres, hein, que ce soit des industriels, des caisses d'assurance maladie, etc., et des patients, bien évidemment, les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelait alors la médecine ambulatoire et ce qu'on appelle maintenant la domomédecine. Alors, le contexte, vous le connaissez. On va aborder donc ces problématiques de la domomédecine. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment la domomédecine, on la définit d'abord par un ensemble des actes et des soins dispensés au domicile du patient durant ses activités ou durant ses activités socio-professionnelles. Ça veut dire qu'on imagine que les actes médicaux, même complexes, devraient interférer le moins possible avec la vie personnelle du patient ou de son environnement. Donc, des actes au moins comparables en qualité et en quantité à ceux effectués à l'hôpital, voire de meilleure qualité, et j'insiste sur ce point, parfois complexes, s'appuyant sur les technologies modernes. L'objectif, c'est privilégier le maintien à domicile ou en activité, à qualité de soins équivalente ou meilleure, et stimuler le progrès médical. Et ça n'est qu'en second qu'interviennent les bénéfices économiques. Le contexte, c'est celui des maladies chroniques, qui est un enjeu mondial de santé. On en a largement parlé récemment. C'est celui de l'évolution démographique qui fait qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées au cours des années à venir. C'est les coûts de la santé dont vous n'arrêtez pas d'entendre parler. Certains d'ailleurs considèrent que ces coûts de la santé sont un moteur pour l'économie, donc on n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire de considérer que ça soit un aspect négatif. Et puis c'est le souhait d'autonomie et de responsabilisation des patients qui est vraiment de plus en plus important, et la diffusion donc des technologies dans toutes les couches de la population qui rend possible d'imaginer des solutions auxquelles on ne pensait pas auparavant. Et parmi ces technologies, les développements des micro- et nanotechnologies, capteurs, enregistreurs, émetteurs, injecteurs, programmateurs et tout ce qui tourne autour des technologies de l'information et de la communication que vous connaissez certainement mieux que moi. Alors, les maladies auxquelles on s'adresse, on en parle beaucoup maintenant de ces maladies chroniques, mais dites-vous bien que nous avons commencé à travailler sur ce rapport en 2002, hein, et que ça représentait une longue, très longue gestation pour arriver à un vote de ce rapport par l'Académie des technologies en 2008. Et donc, à l'époque, on avait identifié les maladies chroniques comme étant un enjeu important pour le développement de cette domomédecine. Également, tout ce qui tourne autour de la surveillance rapprochée d'un patient qui présente un risque accru d'accident aigu, les patients âgés et les patients handicapés. Et en fait, on sait faire, en dehors de l'hôpital, beaucoup de choses. On sait faire beaucoup de choses, et surtout, on sait les faire de façon continue, avec beaucoup d'informations temporelles. En particulier, on peut mesurer la glycémie, l'activité, la température, le poids corporel, la tension artérielle, la quantité d'oxygène dans le sang, les performances, des auto-estimations de symptômes, de douleurs, de fatigue, de respiration. Et puis, on peut traiter, on peut administrer des médicaments au domicile des patients, même selon des schémas complexes. J'en ai montré un pour la chimiothérapie, mais ça peut se faire également pour l'insuline, pour l'administration d'oxygène, pour la dialyse péritonéale. Donc, c'est quand même des techniques qui sont sophistiquées au plan médical, qu'on peut faire souvent et qu'on fait encore en règle à l'hôpital, mais qu'on peut également faire à domicile, pour peu, évidemment, qu'on se dote des technologies dédiées et du système qui va avec. Et donc, on a beaucoup insisté dans ce travail de l'Académie des technologies sur la nécessité d'avoir une approche système du problème de domomédecine. Car en fait, l'analyse, et je pense qu'on est en train malheureusement de refaire cette même erreur actuellement, qui est de prendre, on se dit qu'on va résoudre le problème pathologie par pathologie. Non. Un malade peut avoir plusieurs maladies. Une plateforme doit pouvoir s'adresser à plusieurs types de maladies. Et donc, bien sûr qu'il faut avoir des systèmes, bien sûr qu'il faut avoir des attitudes ciblées, mais la base doit être commune. Et l'analyse de l'Académie des technologies a été de dire que si on ne prend pas une approche système globale de la problématique de la domomédecine, on n'avancera pas. Prise en compte de multiples fonctions, car multiples pathologies. Multiples pathologies chez le même patient, surtout si on parle des personnes âgées, c'est quand même très rare qu'il n'y ait qu'une seule maladie. Et donc, forcément, on va être amené à prendre en charge plusieurs maladies. Et ça n'est que dans ce type de système global qu'on va pouvoir se voir se dégager comment ça marche, quel est le modèle économique, quels sont les outils dont on a besoin, quelles sont les procédures qu'on doit mettre en place. Donc, je reviens système complexe, multisite, multi-acteurs, multipathologie évolutif. Évidemment, c'est pas ce qu'on entend habituellement où on veut être restreint sur une seule pathologie dans un endroit. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir de ça? C'est des expériences limitées qui n'arriveront jamais à se généraliser parce que précisément le problème a été posé comme limité dès le départ. Et c'est pour ça que les expériences comme celles que je vous ai décrites ont été un succès, mais ne se sont pas développées. Donc il faut voir probablement plus large qu'une seule pathologie. Il faut avoir une approche systémique globale. Et dans ce cadre-là, les informations et les technologies de l'information et de la communication jouent le rôle de pivot et donc d'architecture globale, d'un système global qui va se décliner après peut-être pathologie par pathologie ou pluripathologie. Donc les technologies sont disponibles. Système d'acquisition et capteurs, système les technologies de stockage, de diffusion, de traitement d'informations, l'accès aux bases d'informations, les interfaces homme-machine, les outils collaboratifs et tout ce qui concerne la fiabilité et la sécurité de ces systèmes. Et il faut les intégrer dans un système global. Et pour l'Académie des technologies, c'est là que se situe l'enjeu principal. Car derrière, il y a une approche système d'un nouveau secteur de santé. Et ça a commencé à être évoqué par plusieurs sphères, on va dire, cette notion qu'on va vers un nouveau système de santé. Il ne faudrait surtout pas que ce nouveau système de santé il soit considéré, et là je parle en mon nom personnel, il ne faudrait surtout pas qu'il soit considéré comme une alternative à l'hospitalisation. Ce n'est pas une alternative économique à l'hospitalisation, c'est un autre système de santé. Car, je voudrais vous donner des exemples pour vous montrer que les choses bougent tout de même pas mal. Donc là, nous venons partir d'un projet européen, qui est un pilote européen qui s'appelle InCasa. En gros, c'est la traduction italienne de domomédecine, si vous voulez. C'est un projet qui a démarré le 1er avril 2010, donc il est tout neuf. Il y a 13 partenaires dans 8 pays. Et donc, l'objectif, c'est précisément développer un système de réseau intégré pour améliorer l'autonomie des personnes âgées. Et ce projet a évolué très vite vers le couplage entre personnes âgées et personnes malades atteintes de maladies chroniques, ce qui fait que on associe bien les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a distingué le maintien en autonomie des maladies chroniques. Mais en fait, c'est la même problématique, avec des outils un petit peu différents, évidemment, mais c'est quand même un système global. Donc, et vous retrouverez là, finalement, ce qu'on retrouve dans pas mal de projets, sauf que, et je reviendrai sur la particularité de ce système tout à l'heure, donc on a en bas le patient, son domicile, dans sa famille, des systèmes qui vont enregistrer par exemple son activité, son poids corporel, on peut toutes sortes de systèmes, et je vais y revenir après sur qu'est-ce qu'on va mesurer chez ce patient. Il peut aussi interagir avec le corps médical, les données ou les infirmières ou les services qui peuvent lui apporter à manger et autres. L'information est transmise à un serveur. Le serveur détecte, en fonction évidemment des informations que lui a données, des alarmes. Ces alarmes sont retransmises aux professionnels de santé ou à la famille ou aux patients, enfin à l'intervenant concerné. Donc cette architecture, ou voire à l'hôpital évidemment, donc cette architecture est actuellement en cours de construction. Moi, je vous montre un exemple parce que c'est un des systèmes de capteurs, de détecteurs qu'on utilise vraiment en routine dans mon unité. C'est un bracelet d'actimétrie qui est très simple. Ça enregistre l'activité repos du patient. C'est un accéléromètre. Et ce que ça nous renseigne sur deux choses. D'une part, sur la qualité du sommeil du patient et d'autre part sur son niveau d'activité et sur son rythme circadien. Donc on a trois informations à partir de ce système et qui permet donc de caractériser, vous voyez la courbe en verte, c'est l'évolution pendant 3 jours consécutifs de l'activité et du repos, donc que donne ce petit bracelet. Donc c'est un patient qui est très bien rythmé. Et puis en rouge, vous avez un patient qui a ce qu'on appelle une disruption de ses horloges biologiques. Et donc on sait, de plus en plus de recherches mettent en évidence que quand il y a un maintien du rythme circadien, la qualité de vie et la survie des patients est meilleure. Quand il y a une détérioration de ce rythme, la survie est moins bonne. Donc c'est un indicateur. Et cet indicateur, il n'a pas de sens en dehors de la vie quotidienne. Si vous le mesurez dans l'hôpital, il n'a aucun sens. Il n'a un sens que quand le patient est dans son environnement naturel. Donc je vais vous montrer ça pour vous dire qu'avec ces technologies d'enregistrement, avec ces technologies liées à la domomédecine, on a des informations qu'on n'avait pas auparavant. Et ça, c'est tous ceux qui ont fait ces expériences le disent, on découvre des tas de choses qu'on ignorait. Et on les découvre, c'est bien, mais en plus, on peut en tirer parti pour le bénéfice du patient. Donc je reviens à Incasa, et donc là, vous voyez tout de suite que cette problématique multipathologie, elle est abordée dans le projet Incasa. Vous avez donc 5 pilotes utilisateurs, l'un en France, l'autre en Grèce, l'autre en Italie, l'autre en Espagne et l'autre en Angleterre. Donc on couvre quand même pas mal de pays. Dans chaque pilote, il y a une ou deux pathologies qui sont concernées, mais la plateforme est la même, le serveur est le même. Et l'idée, ça c'est la première phase, la phase suivante, c'est vraiment quand un patient cancéreux a une hypertension, on va pouvoir le suivre à la fois son hypertension et son cancer. Donc en fait c'est une nouvelle, oui je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est un nouveau secteur de santé qui est centré sur la réhabilitation du dialogue médecin-patient assisté d'un coordinateur. Alors, vous savez que le médecin généraliste aujourd'hui, moi je l'ai été avant de faire de la recherche, le médecin généraliste aujourd'hui, il ne sait plus où donner de la tête et il fait des prescriptions souvent mécaniques. Et il y a une grande lassitude des médecins généralistes au point qu'il y en a de moins en moins, et en particulier un certain nombre de régions, il y en a de moins en moins, voire pas du tout. Et donc cette désaffection des médecins pour leur profession est importante parce que derrière, il y a comment on va se faire soigner plus tard. Quel va être le niveau d'égalité d'accès aux soins dans notre société dans quelques années quand il y en aura de moins en moins. Donc la domomédecine, elle est là pour ambition de restaurer ce dialogue médecin-traitant, définition du plan de prise en charge du patient avec l'assistance d'un coordinateur qui va faire en sorte que se déploieront un certain nombre de services qui permettent la mise en œuvre de cette domomédecine. Les services, c'est non seulement les services médicaux, les médecins spécialistes, mais c'est pas seulement les personnels et les services paramédicaux, infirmiers et autres, mais c'est aussi les personnels et services d'assistance sociale, de gestion, d'assistants techniques, parce que qui dit matériel, il va bien falloir en faire quelque chose de ces matériels. Il faut s'assurer qu'ils marchent, il faut les remplacer s'ils ne marchent pas, il faut les réparer s'il y a des problèmes. Et puis, il y a les personnels et services éducatifs. Et puis, comme c'est un vrai système, il y a besoin aussi de personnel et de services d'assurance qualité. Donc, on voit donc se dessiner ce que on espère devenir un nouveau système de santé. Alors, les recommandations du rapport de l'Académie des technologies sont donc publiées donc en 2008, indiquaient donc le fait qu'il fallait privilégier une vision à long terme du développement de cette domomédecine, que ça représente également une chance d'une réforme en profondeur du système de santé, et que il y avait quatre recommandations: développer la recherche technique et scientifique, mettre en place des formations spécifiques, favoriser l'émergence d'un nouveau secteur économique et mettre en place des expérimentations pilotes. Et c'est sur ce dernier point que je vais conclure. Sachant que le contexte a énormément évolué depuis 2008, entre 2008 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements dans ce domaine. Le rapport de Simon et Acker, le livre blanc sur la télémédecine du Conseil national de l'Ordre des médecins, le rapport Lasbordes, la loi hôpital, patient, santé, territoire, la création du centre de référence de santé à domicile et autonomie. Donc tout ça montre la préoccupation de l'État vis-à-vis de cette thématique. Et donc, dans ce cadre-là, l'Académie des technologies n'a pas pour vocation que de faire des rapports, mais elle a pour vocation d'essayer de les mettre en application. L'Académie des technologies développe des partenariats régionaux, et dans le cadre de ces interactions régionales, la région Champagne-Ardenne a clairement manifesté son intérêt pour réaliser une expérimentation pilote pour une démonstration à grande échelle de la domomédecine qui s'appuie sur les principes que je viens d'énumérer. Donc, on reste grande échelle. Grande échelle, ça veut dire 10 000 patients. C'est limité, mais c'est quand même grand. Ça veut dire multipathologie. Là, on a quand même identifié cancer, maladies cardiovasculaires, métaboliques et neurodégénératives. Et maintien en autonomie. Donc, d'une part, les maladies, mais aussi le maintien en autonomie. Et environ 10 000 patients, 4 ans, 40 millions d'euros. Si vous avez de l'argent, on est preneur. Alors, les retombées attendues. Les retombées attendues, donc en numéro 1, on met le progrès médical. Car s'il n'y a pas de progrès médical, ça ne marchera pas. Et je crois qu'il faut quand même être conscient. Et je peux vous dire qu'actuellement, on voit la critique syndicaliste de la télémédecine qui peut être fondée, qui est de dire la télémédecine va remplacer la carte vitale par la carte Visa. Et donc, si on continue à imaginer que l'intérêt principal de la télémédecine, c'est l'alternative à l'hospitalisation et c'est faire des économies de la santé, ça ne marchera pas. Ça ne peut marcher que s'il y a une issue positive. Et je pense, enfin, moi, je suis personnellement convaincu qu'il y a une issue positive à cette domomédecine, pour peu qu'on la prenne par le bon bout. Donc, un progrès médical, un nouveau secteur de santé, un modèle économique qu'il faudra inventer, de nouveaux aspects de la recherche, parce que le patient est à domicile et qu'on va apprendre des tas de choses sur ses fonctions physiologiques quand il est malade et quand il est bien portant. L'éducation à la santé, parce que le patient veut être un acteur de sa propre santé, et donc ça va être une situation privilégiée pour faire passer des messages de santé et obtenir des informations sur la santé. Et puis une attractivité pour les professionnels de santé, sachant que l'une des motivations principales de la région Champagne-Ardenne, c'est que c'est précisément une zone de déprise de santé, où il y a des territoires où il n'y a plus de médecins, où les gens s'en vont parce qu'ils ne savent plus comment ils vont être soignés. Donc, on est dans la problématique de la réalité. Donc, on a identifié sept axes, hein, les procédures, mais sept axes de travail, de développement. D'une part, évidemment, le développement de procédures médicales dédiées au système, l'architecture du système d'information, la recherche technologique, la recherche biomédicale, éducation, formation, impact socio-économique et déploiement et expérimentation. Et donc, en novembre 2009. Il y a eu une réunion de lancement du projet, d'examen. Est-ce que la Champagne-Ardenne souscrit ou pas à cette expérimentation? Donc la réponse a été oui, en présence de l'ensemble des acteurs concernés. Et donc on s'est réunis, on va dire, environ une à deux fois par mois depuis ce moment-là, avec un consortium qui, comme vous le voyez, comprend d'une part les collectivités territoriales, d'autre part des acteurs de santé de la région Champagne-Ardenne, en particulier les établissements de santé, l'ARS et l'Ordre des médecins et des associations de patients, un certain nombre d'industriels de Champagne-Ardenne et nationales, voire internationaux, et puis des groupes dans ces d'éducation et de recherche, en particulier l'Université de Reims, l'Université technologique de Troyes, le CEA, l'INSERM et le CNRS. Et donc je conclurai en disant que aujourd'hui on n'a pas de réalisation à vous montrer. Aujourd'hui on a un projet, on a des gens qui se sont investis dans les projets et on commence à répondre aux appels d'offres pour mettre en place brique par brique ce projet de domomédecine. Pour lequel, je reviens, ce qui nous paraît important, c'est la globalité de l'approche médicale et de soins hors hospitalisation centrée sur le patient. C'est également la responsabilisation citoyenne qui est sur lequel s'appuie toute cette domomédecine. Et on est frappé par la réception positive des maires, en particulier, de ces zones de déprise de santé, parce qu'ils sentent à quel point ça peut répondre à un certain nombre de questions qui se posent pour la santé de leurs habitants. Les technologies sont indispensables et elles sont structurées par ces technologies de l'information et de la communication. Il ne faut pas imaginer que tout le monde va avoir toutes les technologies chez lui. Il faut l'imaginer de façon gradée en fonction de la pathologie ou du risque de ces patients. C'est certainement un levier pour les recherches technologiques et biomédicales. Je peux vous dire que les infirmières de Champagne-Ardenne et tout le groupement de formation de Champagne-Ardenne a déjà pris en main les sessions de formation de leurs infirmières qui sont extrêmement motivées par cette approche et que ce sera une source de progrès médical et de création de valeur. Et ça, on le voit au cours de la dernière année, les publications concernant les progrès médicaux liés au suivi continu des patients à domicile et à l'adaptation des traitements à ce suivi continu, on le voit sur la glycémie, on le voit sur le cancer, on le voit également sur les maladies cardiovasculaires, dans les journaux top, c'est ça qui sort en ce moment. Et donc avoir cette notion que c'est un nouveau système de santé qui est en train de se dessiner et qu'il ne faut pas le rater, parce que si on le rate, je pense que ça va aller ni pour la télémédecine, ni pour les patients, ni pour personne. Et pour ne pas le rater, il faut réaliser des expérimentations pilotes en grandeur réelle, multipathologie, et je pense que le monopathologie ne va pas nous apporter grand chose de plus si ce n'est le rodage des télécommunications entre le patient et un centre serveur. Et ça, on n'a pas besoin de faire l'expérience pour savoir que ça peut marcher. Merci.